Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture. Une mémoire radiophonique.
Certes, natif de Rouen, Armand Salacrou n'en était pas moins un enfant du Havre, où il vécut dès les premiers mois de son existence. En 1960, on le retrouvait dans sa ville pour « La province et mon cœur », une émission divertissante et néanmoins instructive, dans laquelle Denise Benoît, Marcel André et José Arthur proposaient de découvrir le Havre et son port. Aux côtés d'Armand Salacrou, on retrouvait quelques-uns de ses amis havrais, notamment le comédien Robert Chandot, créateur de l'avant-scène, l'écrivain Bernard Esdrasgos et l'homme de presse Pierre-René Wolff. Au fil de cette balade, accompagnée par le piano de François Robert, ces esprits fins et lettrés faisaient partager aux auditeurs de la chaîne parisienne leurs souvenirs, l'histoire du Havre et l'amour de leur ville, d'avant et de toujours. La province et mon cœur, le Havre avec Armand Salacrou.
La province et mon cœur. Une émission de Claude Dupont. Texte et reportage de Jean Châtenay. Présenté par José Arthur, Denise Benoît, Marcel André, avec François Robert au piano. Assistante de production, Catherine Claes. Chef opérateur du son, René Cambien. Aujourd'hui, Le Havre, avec Armand Salacrou et la participation de Robert Chandot.
À Honfleur, les pommiers poudres de fleurs, leurs branches, leurs branches. À Bolbec, front cul sec, pour l'évêque, on s'en taillera une tranche, une tranche. À Quiboeuf, on se baignera, mais c'est au port qu'on verra la Manche, la Manche.
Oui, mesdames et messieurs, c'est au tour des années 820 que le fleuve superbe, dont l'étrave de notre navire déchire à présent les eaux tumultueuses, que ce fleuve dont vit apparaître les embarcations, les perfides envahisseurs, les Norsemen, les hommes du Nord, qu'on appelle aujourd'hui communément les Normands.
Mais enfin, José, qu'est-ce que c'est que cette façon de nous appeler mesdames et messieurs, Marcel et moi? Enfin, c'est pas une raison parce que Maurice Biro n'est pas là aujourd'hui. Oui, il a eu affaire dans le Bas-Rhin pour nous parler sur ce ton solennel. Enfin, on se connaît bien pourtant. On vous a fait quelque chose?
Mais vous avez voulu que je vous serve de cicérone pour descendre la Seine? Oui. Eh bien, le mal est fait. Je mets une casquette sur la tête, un brassard autour du bras, speak English, habla espagnol, parla italiano, govarit polski, et suivez le guide. J'ai l'habitude d'entrer dans la peau de mon personnage, moi, figurez-vous. Je suis l'acteur qui joue vrai. D'ailleurs, tout le monde vous le dira. Tenez, un jour, en tournée, à Pont-l'Abbé...
Non, José, soyez gentil. Laissez la Bretagne tranquille, on s'en occupera une autre fois. Pour l'instant, il est question de la Normandie, et plus exactement de la basse vallée de la Seine. Si vous vous mettez à nous raconter vos histoires de tournée, je vous connais. Ça va nous mener jusqu'à New York.
Oh oui, Marcel a parfaitement raison. Parlez-nous plutôt du paysage. C'est ravissant.
C'est magnifique.
Vous trouvez? Oui. Moi, je trouve qu'à la vitesse où vont les bateaux aujourd'hui, on voit vraiment plus grand-chose.
Oh, ben vous exagérez, voyez.
Ah non, pas du tout. Songez qu'au temps de la marine à voile, par exemple, il fallait 4 jours pour remonter du Havre à Rouen. Et encore, quand il faisait beau. Alors là, au moins, pour le paysage, on était servi. Et les Vikings eux-mêmes, au 9e siècle...
Ah, enfin les Vikings!
Oui, les Vikings et leurs drakkars décorés d'animaux fabuleux, remontant la Seine à la voile, à la rame.
À pied, à cheval, enfin avec tout ce qui leur tombait sous la main. Ils étaient d'un éclectisme total à l'égard des moyens de locomotion. De rudes gaillards, en tout cas, ces Norsemen, je vous le garantis.
Les Normands, trop pleins d'une race prolifique et polygame.
Pardon?
Comment?
Ben, c'est ce que je lis sur le guide, mon vieux.
Trop plein d'une race prolifique...
Et polygame.
Oh, quel horreur!
Mais qu'est-ce que vous voulez, Denise? C'est de l'histoire. Ah, c'est bien pénible, quelquefois, l'histoire.
Oui, mais enfin, quand même, dites donc, les Normands, moi, j'aurais jamais cru.
Ah, ils ont beaucoup évolué, vous savez.
Ah, j'espère bien. Allons, un peu de sérieux, s'il vous plaît. Où sommes-nous?
Quelque part sur la Seine, entre Caudebec et Quiboeuf, non loin de Routon, de Ponteau de Mer et de Lillebonne, au lieu dit Lofloc ou La Vacquerie.
Mais vous prononcez ces mots-là avec comme si vous étiez du pays, Marcel. Vous seriez normand, par hasard?
Ça se pourrait.
Ah oui?
Allez donc savoir. Les Normands sont montés jusqu'à Paris, vous savez. Sans parler des francs-tireurs qui ont visité l'Islande, le Groenland, la Russie, la Sicile et le Brésil avant n'importe qui, y compris Christophe Colomb.
Oh, regardez! Cette jolie prairie qui descend doucement vers la Seine, avec ses deux petites maisons blanches à toit de chaume. On dirait...
On dirait quoi?
Je ne sais pas. On imagine un poète installé là-haut, derrière ses fenêtres à petits carreaux,
oui.
Avec la Seine sous les yeux, la vallée à perte de vue.
Oui, il doit écrire des choses épatantes.
Oh, on ne peut pas s'arrêter.
Mais l'horaire, Denis, c'est l'horaire. Armand Salacrou nous attend déjà au Havre, alors qu'il est et nous ne sommes même pas arrivés. Non, plus tard si on trouve un moment, je vous promets.
C'est promis?
Oui, promis. Notez le coin, Marcel.
Oui, d'après mes estimations, ça doit se trouver entre Vieux-Port et Trouville là-haut.
Vous êtes sûr qu'Armand Salacrou est au Havre ce matin, José?
Ah oui, enfin, il m'a dit qu'il ferait tout son possible pour y être. Enfin, de toute façon, il m'a donné l'adresse d'un tas de gens qui pourront nous parler de lui, du Havre, des Havrais. Enfin, ça, on n'a pas besoin de s'en faire.
Attention, baissez la tête.
Oh!
Oui, le pont de Tancarville.
C'est merveilleux.
Ah oui, surtout vu d'ici, parce qu'en somme, ça coûte moins cher pour passer dessous que de passer dessus. Et le point de vue est meilleur, alors c'est tout bénéfice.
Vous ne seriez pas un peu normand, José?
Peut-être banque, non, l'ami. Il est un fait que je me sens certaines affinités avec les Vikings. Ce trop-plein d'une race.
Eh bien alors, ne vous gênez pas, la mer est à vous.
La mer.
Oui, la Manche, le Channel, dont un tunnel nous délivrera bientôt.
Mais vous voyez cette espèce de gros village, là-bas, sur la droite?
Oui, à Tribord, vous voulez dire.
Oui.
Ben, ça ne m'étonnerait pas que ce soit le Havre.
Eh bien, si José a l'intention de suivre les Vikings jusqu'en Islande ou au Brésil, vous me laisserez au Havre en passant, vous serez gentil.
Non, Armand Salacrou n'a pas manqué notre rendez-vous du Havre. Nous y sommes arrivés, quant à nous, par voie de mer, enfin, au plus exactement, par voie de Seine. Lui est arrivé... au fait, Armand Salacrou, comment êtes-vous arrivé au Havre?
Eh bien, j'en sais rien, mais j'imagine dans une petite voiture, parce que j'avais 6 mois.
Ah.
6 mois ou un an, enfin.
Oui.
J'arrivais de Rouen, où je suis né, et mes premiers souvenirs sont de l'école maternelle de la caserne des douanes. Je vais avoir 3-4 ans.
Oui.
Voilà comment je suis arrivé au Havre.
Et bien entendu, puisque vous avez passé toute votre enfance dans un des plus grands ports d'Europe, vous avez dû sentir, un jour ou l'autre, vous avez dû vous sentir attiré par la mer, non?
Oui, quand je ne la connaissais pas, j'étais très attiré par la mer. Le port du Havre, enfin, du temps de mon enfance, c'était un port extraordinaire. Enfin, c'était un vrai port, avec des vrais marins, avec des objets exotiques. Il y avait du café, il y avait du coton, il y avait des bois d'Afrique. Il y avait des singes, il y avait des perroquets. C'était vraiment un très beau port. Et j'étais attiré par la mer, même au point que plus tard, quand j'ai eu 30 ou 35 ans, je me suis cru marin, puisque j'étais presque un Havrais. Et j'ai acheté un petit bateau, un 10 mètres, pour aller du Havre à Marseille par Gibraltar. On se croyait arrivé en Espagne, on était encore à Brest, on est reparti. Mais en arrivant à Marseille, j'ai vendu le bateau. Et j'ai découvert, malheureusement, un peu tard, que j'étais avant tout un montagnard.
Oui.
Mais si la montagne, en dehors de très grandes joies physiques, m'a montré d'admirables paysages, pour moi, un des plus beaux paysages que j'ai jamais pu voir et qui est la baie de Seine. Un de mes confrères, qui s'appelle Casimir de Lavigne, qui a fait des pièces de théâtre, disait que c'était la plus belle baie du monde, plus belle même que celle de Naples. Je ne le crois pas. Mais vraiment, c'est un endroit étonnant et je le fréquente assez souvent avec les pilotes du Havre. J'ai souvent été sur les bateaux pilotes. Je suis même camarade quelquefois, j'étais camarade de beaucoup de pilotes et même d'un de mes amis qui est maintenant un homme de théâtre, qui est un comédien et qui s'occupe aussi de publications théâtrales, Chandot, dont le père était pilote.
Robert Chandot, comme on dit au cours d'une enquête, qu'avez-vous à ajouter?
Eh bien que tout cela est parfaitement juste, qu'en effet mon père était pilote et que par conséquent je sais bien ce que c'est qu'un pilote.
Votre père était quoi exactement?
Mon père était pilote de la Seine, c'est-à-dire qu'il prenait les bateaux dans l'estuaire du Havre et il avait pour mission de les monter ou de les descendre, enfin de les monter dans la Seine quand ils allaient vers Rouen et ou de les descendre vers l'estuaire lorsqu'ils revenaient de Rouen.
Oui, vous viviez
Au Havre. C'est-à-dire que la Seine est un très long chemin qui est donc... partagée en deux pour faciliter le travail des pilotes. Il y a une station intermédiaire qui est Villequier. Et alors, la station des pilotes de la Haute-Seine, qu'on appelle d'ailleurs, pour s'amuser, les perroquets, en oui. langage de pilote, parce qu'ils sont dans le haut de la Seine, prennent le relais à Villequier et achèvent le parcours jusqu'à Rouen, et vice-versa.
Mais comment devient-on pilote ?
Il faut nécessairement être capitaine au long cours. Alors, on passe non pas un examen, un concours. Car en fait, c'est une chose de piloter un paquebot tout au long de son trajet dans l'Atlantique, mais c'en est une autre qu'au bout du voyage, le mettre à quai, et c'est de loin la partie la plus délicate, qui fait que le pilote est absolument indispensable.
Oui, c'est comme en voiture, exactement. Le plus dur c'est de se garer.
Exactement, quand vous rentrez dans un grand garage public, et au volant de votre voiture, qui est un engin facile, un engin qui s'arrête sur place, qui peut faire machine arrière très facilement, il n'y a pas de vent, il n'y a pas de marée, eh bien vous êtes quand même très embarrassé, vous êtes tout heureux que le gardien du garage vous dise « Eh bien écoutez monsieur, laissez la voiture, je vais la prendre, c'est en somme oui. un pilote lui aussi. »
C'est ça, oui.
Et pourtant il y a des pancartes, oui. on dit « N'utilisez pas la rampe, suivez la flèche, box de monsieur Intel. » Mais lorsqu'au lieu d'une voiture, vous êtes sur la passerelle d'un cargo de 50 000 tonnes, oui. D'un paquebot, eh bien il est certain que l'opération est beaucoup plus délicate. Et si vous ajoutez à cela du vent, qui a tendance à, sur cette surface énorme, à compliquer la manœuvre, si vous tenez compte des remorqueurs dont chacun a lui-même son pilote, car il faut qu'il y ait un pilote non seulement sur le bateau, mais sur le remorqueur. Donc il faut qu'il y ait dans la manœuvre générale une cohésion, une habitude, une sorte d'équipe, n'est-ce pas ? Donc d'où la nécessité du pilote, n'est-ce pas ?
Mais dans toute profession, il y a ce qu'on peut appeler la petite histoire. Est-ce que vous n'avez pas, dans vos souvenir, une histoire, une anecdote, comme on dit, sur cette profession.
Oui, il y a simplement par rapport, si vous voulez, à Armand Salacrou, le fait que un jour, au cours de vacances d'été, nous avions décidé, nous étions ensemble au Havre, et nous avions décidé d'aller faire un petit tour en mer sur le bateau pilote. Et ce jour-là, il y avait beaucoup de bateaux qui attendaient leur tour d'engainer, comme disent les pilotes, c'est-à-dire de s'engager dans la Seine, dans le chenal. Et Salacrou était amusé par cette sorte de jeu du hasard qui faisait que parmi ces bateaux, il y en avait qui paraissaient très engageants, très beaux, des bateaux rutilants de couleur, des bateaux blancs, des bananiers, puis d'autres affreux, des petits charbonniers qui venaient de Cardiff. Et tous ces bateaux attendaient, et le pilote ne pouvait pas choisir son tour, bien sûr, c'était quand c'était à lui de prendre tel bateau, indifféremment, il fallait qu'il aille à bord de ce bateau. Alors c'était amusant de voir, d'une part, le pilote qui était là, se préparant à sa mise à bord du bateau qui lui était désigné par le sort, et puis, quelquefois, d'entendre ses réflexions. « Ah, c'est cet affreux petit charbonnier, on y mange très mal, etc. Au contraire, celui-là, j'ai déjà monté 3 fois, il est très bien, je connais le commandant, c'est un copain, etc. » Et c'était assez amusant de constater l'étonnement d'Armand Salacrou, d'ailleurs, devant cette espèce de petit manège.
Y'avait 10 marins sur un beau navire, y'avait 10 marins qui revenaient de loin. Y'avait 10 marins qu'avait le sourire en pensant à tout ce qu'ils feraient le lendemain. La 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 la. Y'avait 10 marins dans les rues de la ville, se tenant par la main, chantant le même refrain. Y'avait 10 marins qui cherchaient des filles, car le vent de la mer, ça donne une sacrée faim. Ah, la, 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 la.
Eh bien, vous voyez, au fond, rien ne ressemble davantage à un port de mer qu'à un autre port de mer.
Vous dites ça pour le Havre ? Oh, c'est pas gentil, Denise.
Hein ?
Mais non, songez que c'est une ville récente.
Mais pensez donc, fondée par un certain Bonnivet, grand amiral de France, en 1515.
1515, tiens, ça me dit quelque chose.
Oui, encore un coup de François Ier. D'ailleurs, le bassin au bord duquel nous nous trouvons en ce moment s'appelle toujours le bassin du roi. Mais je vous disais que la ville était récente pour un autre motif et qui n'a rien de bien réjouissant. Le Havre a été le port d'Europe le plus touché pendant la dernière guerre.
Bien sûr, c'est une raison. Je suppose donc qu'il est inutile de chercher sur les quais les bouges à matelots, les ateliers de tatouage ou les vendeurs d'oiseaux exotiques.
Ah oui, mais n'allez pourtant pas croire que ça n'a jamais existé au Havre, Denise. Vous voyez là-bas, là, de l'autre côté du bassin du Roi,
ces
maisons en briques, avec des toits d'ardoise.
En effet, il n'y a pas trace de béton armé là-dedans. Ça ne ressemble pas du tout au reste de la ville.
À vrai dire, c'est un quartier qui n'a jamais ressemblé à un autre, pas plus que Montmartre ou le quartier latin. C'est peut-être pour ça que les marins du monde entier connaissaient ce quartier autrefois.
Oui, comment était-ce autrefois, Bernard Estrasgos? Vous devez le savoir, vous qui êtes journaliste et écrivain au Havre.
Le quartier Saint-François était un quartier de travailleurs le jour et un quartier assez joyeux la nuit, puisque beaucoup de petits cafés figuraient à côté de dancing, où les marins venaient se distraire des fatigues des traversées assez longues à l'époque, et où sévissait également une engeance assez peu recommandable qu'on appelait les marchands d'hommes. C'est-à-dire, c'était une mauvaise hôtesse qui recevait les marins, et qui évidemment les poussait à dépenser le plus possible, et lorsqu'ils n'avaient plus d'argent en poche, leur procurait un embarquement. C'est une sorte de traite des Blancs qui heureusement a disparu aujourd'hui. Et à cette époque également existait un personnage très curieux qu'on appelait le consul de Bretagne, qui était un commerçant, un débitant, et vers lequel les Bretons envoyaient les leurs qui venaient travailler au Havre, et ils se chargeaient d'eux, moyennant finance bien entendu, pour leur procurer du travail, et en somme ils faisaient un peu, sur un autre plan, ce que faisaient les mauvaises hôtesses, les marchands d'hommes.
Quand le quartier Saint-François a-t-il été détruit et dans quelles circonstances?
Le quartier Saint-François, pendant l'occupation, avait été évacué par force, les Allemands ayant eu quelques déboires justement avec les fameux Bretons qui n'avaient pas été les derniers à faire de la résistance. Et alors, il avait évacué toute la partie du littoral de Sainte-Adresse au Havre, et notamment Saint-François-en-Lille, qui se trouvait justement en bordure de mer. Et c'est un quartier totalement désert qui a été détruit en septembre 1944 lors des bombardements de la bataille du Havre, dont on a beaucoup parlé à l'époque.
Comment le quartier Saint-François a-t-il été reconstruit?
Le quartier Saint-François a été reconstruit d'une façon un peu différente du reste de la ville. La reconstruction a été confiée au maître Auguste Perret, qui a eu cette idée intelligente, à mon avis, de faire une différence avec Saint-François pour essayer de lui conserver une partie de son caractère ancien, d'autant plus que des rues de certaines maisons, et même une rue, ont conservé les vieilles maisons qui faisaient autrefois la réputation de Saint-François. Non, peut-être pas une réputation de salubrité, mais une réputation joyeuse. Et aussi, à Saint-François, en Lille, c'est à peu près le seul endroit du Havre construit où on rencontre des maisons reconstruites en briques rouges et avec des toits. Alors que le centre-ville, proprement dit, est reconstruit en grands îlots de béton avec terrasse. Ce qui, évidemment, est un peu déroutant pour le touriste qui ne s'attend pas, dans une ville où les pluies sont assez fréquentes, à trouver des terrasses au lieu de toits.
Quelles nouvelles couleurs les nouvelles activités du port donnent maintenant à la ville du Havre?
Et évidemment, depuis la guerre, les conditions économiques ont changé, les grands courants commerciaux ne sont plus les mêmes, et le Havre, en fait, est plutôt un grand port de transit et un grand port d'importation de pétrole. Un pétrolier est déchargé en l'espace de quelques heures, et le pétrole refoulé par pipeline sur les raffineries. Si bien que les conditions économiques du Havre, ce qui a d'ailleurs une importance sur les finances de la ville, ne sont tout à fait différentes de ce qu'elles étaient autrefois.
Armand Salacrou, vous avez bien connu le quartier Saint-François quand il y avait encore cette ancienne physionomie. En
fait. Ah oui, mais parce que, évidemment, quand, avant 14, j'étais trop petit pour aller au quartier Saint-François, je me promenais simplement sur le quai de Southampton avec mes parents. Mais dans l'entre-deux-guerres, aux environs de 25, 30 et 35, j'ai souvent fréquenté Saint-François. C'était un lieu, je ne crois pas me tromper, unique. J'en parle maintenant souvent à l'Académie Goncourt avec un de mes meilleurs amis, qui est Pierre Macorlan, qui lui a connu surtout les quartiers équivalents de Rouen. Car tous les ports de la Manche avaient ce caractère. Cet effet d'arrivée de marins pour 24 heures. Il y avait deux ou trois petits bars, bistrots, curieux. Je me souviens d'un qui s'appelait, je crois, le Royal. L'orchestre, c'était le patron, tout seul. Il avait un accordéon. Il avait au pied une sorte de ressort avec lequel il tapait sur une grosse caisse. Et puis en plus, il y avait un pick-up. Si bien qu'on dansait sur l'art du pick-up, soutenu par l'accordéon, et avec les coups de cymbales et de grosses caisses de lui, patron. Et alors, quelquefois, quand on avait de la chance, car ces 10 jours c'était vide, mais le jour où c'était plein, parce qu'un bateau était arrivé, c'était un lieu étonnant. Les filles qui dansaient là étaient des petites ouvrières, enfin, je ne dis pas des saintes litouches, mais enfin, des ouvrières sérieuses, qui aimaient la danse avant tout. Et elles dansaient admirablement parce que les soutiers qui venaient de New York étaient des Noirs.
Ah, oui.
Et ils étaient extrêmement heureux de pouvoir tout simplement danser avec des blanches. Et je me souviens encore de ces petites ouvrières qui étaient ce qu'on appelait à ce moment-là des trieuses de café. Elles triaient le café si bien qu'elles avaient les mains tachées par l'essence de café qui imprégnait leur peau. Un peu plus loin, sur le quai de Southampton, justement, il y avait un café qui avait un étrange appareil. Je ne l'ai vu que là, mais il paraît qu'il y en avait aussi un autre à Hambourg. C'était un violon mécanique. Je dis bien un violon. Eh bien voilà, l'appareil était constitué de 4 violons qui avaient chacun une des cordes du violon. Vous savez qu'il y a 4 cordes dans un violon. Alors il y avait le violon qui avait la corde de sol, le violon qui avait la corde de ré, etc. Et ces violons étaient au centre d'un grand cercle, c'est-à-dire que l'archet était un cercle. Et alors quand telle note de tel violon devait venir, le violon s'abaissait sur le cercle et le son sortait. On mettait un papier perforé et on voyait ces 4 violons qui tombaient, remontaient, et on avait c'était peut-être pas d'une extraordinaire qualité musicale, mais c'était vraiment curieux.
Une pièce de musique.
Oui. Ah, ça, c'était un endroit, c'était un pays, c'était un lieu extraordinaire. Mais je crois que l'on peut retrouver encore d'autres témoins. Il y avait beaucoup de Bretons d'ailleurs dans ce quartier, car c'était aussi un quartier de pêcheurs. Il n'y avait pas seulement les trieuses de café, les marins qui venaient d'Amérique, il y avait aussi les pêcheurs, et beaucoup de pêcheurs sont Bretons. Et il y a encore des Bretons et des Bretonnes au Havre qui ont connu ce temps-là, et même par exemple Maria la Bretonne.
Vous êtes dans le quartier depuis très longtemps, madame?
Depuis 27.
Depuis 1927?
Oui.
En effet, vous avez vu le quartier Saint-François avant...
Avant la guerre, oui, monsieur.
Comment ça se passait? Alors, il y a un gros changement depuis.
Ah, ce n'est plus pareil, monsieur. Vous savez, avant la guerre, si vous aurez eu le quartier Saint-François, qui était tellement joyeux, on chantait à toute heure la nuit. Vous savez, il n'y avait pas les agents qui arrêtaient les gens, comme en ce moment. Il y avait la joie, enfin, tout le monde chantait. On était ouvert jusqu'à 2h du matin. Et les marins s'en partaient encore le matin à 6 heures pour rejoindre leur bateau. Ils revenaient à midi manger. Et là, on pouvait compter sur nos clients, tandis que maintenant, ce n'est plus pareil. Tout le monde a des autos, tout le monde a des motos. Et ils aiment bien visiter un peu la ville de tous les côtés. Vous comprenez, ce n'est pas du tout la même chose, Saint-François comme avant-guerre. Du tout, du tout. Moi, je suis encore assez connue parce que j'étais ici quand même depuis 27. J'étais 4 fois sinistrée. J'ai fait 5 quartiers dans la ville du Havre. Je suis restée tout pendant la guerre dans la ville du Havre, faire à manger à tous les gens qui n'avaient pas de famille. J'étais presque réquisitionnée par la ville, où mon mari et mon fils travaillaient sur le port. Et comme je faisais tous les premiers mardis de chaque mois, une réunion pour la résistance du Havre, où j'étais seule femme à occuper à tous ces hommes-là. Enfin, c'est donc de là qui m'ont été appelée Maria la Bretonne, parce que je suis Madame Méliès, comme je suis toujours, mais enfin, ce nom m'a été donné par la ville du Havre.
Mais vous êtes bretonne?
Oui, oui, je suis de Brest, monsieur.
Ah, de Lampol
Poirzel, oui. De là, on m'a reconstruit mon commerce ici, où je suis revenue de retour. Et enfin, on a eu beaucoup de joie le jour de l'ouverture. Tout le monde était gai de voir Maria revenir dans son quartier.
Comment était votre ancienne maison? Est-ce qu'elle ressemblait à celle-ci,
à celle
que
vous
habitez maintenant?
Ah, pas tout à fait pareil. C'était plus grand, d'une autre façon. Et puis, en ce moment-là, ce n'était pas restaurant Maria la Bretonne. C'était le bar Lampolé. Comme je suis de mon pays, de Lampol Poirzel, on avait mis bar Lampolé.
C'était une maison ancienne?
Ah oui, ça datait de François Ier. Qui paraît que, d'après les Beaux-Arts, la première femme qui habitait s'appelait aussi Maria.
Vous n'avez pas seulement accueilli des marins, vous avez été marin vous-même, en somme.
Oui, monsieur. J'ai commencé à naviguer à l'âge de 8 ans avec mon père, sur un bateau où on faisait du port de la Berildut jusqu'à l'île d'Ouessant et l'île de Molène. Nous allions là vendre des cochons, ramasser du goémon pour faire la liotte. Parce que la teinture yotte, ça venait de l'ampoule Poirzel, de l'usine même. Pour la jeunesse chez nous, en ce moment-là, il n'y avait pas d'autre travail que la greffe, le goémon. Enfin, nous avons, mes parents nous ont élevés, on était 8 gosses. Il n'y avait pas l'allocation familiale en ce moment-là. Ça fait que nous avons été obligés de travailler très jeunes. Mais ma foi, nous n'avons pas regretté parce que nous avons appris à travailler. Tandis que la jeunesse, à l'heure d'aujourd'hui, ils sont arrivés à 20 ans qu'ils ne savent plus rien faire.
Voilà bien vos Normands, José. Après les folies de jeunesse, les choses sérieuses. Je les préfère acharnés au travail que prolifiques et polygames.
Oh. Décidément, Denise, vous finirez par me faire croire que cette image vous a frappé.
Parfaitement.
Ah oui. En somme, vous regrettez les bistrots, les tatouages et les perroquets, mais vous êtes résolument pour les choses sérieuses.
Au fond de moi-même, oui.
Mais alors, qu'est-ce que vous pensez de ça?
De ça quoi?
Là, des nouvelles rues du Havre dessinées par Auguste Perret.
Je suis pour, bien sûr.
Et vous, Marcel?
Je suis contre, bien entendu.
Et vous, José?
Eh bien, voyez-vous, moi, je me sens tout normand aujourd'hui. Je ne suis ni résolument pour, ni tout à fait contre. Mais au fond, ça ne me déplaît pas, non?
Et à moi non plus, notez bien. Je suis contre, sans que ça me déplaise. Je peux pas être pour sans choquer ce qu'il y a en moi de confusément irrationnel et sans heurter mon sens cartésien du libéralisme intellectuel. Mais si vous préférez, j'aurais le sentiment de piétiner mon goût pour la fabulation introspective, juxtaposée et même contraposée à ma perception psychosensorielle du beau absolu.
Oh là 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 là.
Quoi? Pourquoi faites-vous cette tête-là? On parle d'art moderne, oui ou non?
Mais nous, on parlait seulement du Havre moderne, Marcel. On pouvait pas prévoir que ça vous ferait cet effet-là.
Oui, ben ça me le fait.
Asseyez-vous.
Armand Salacrou, vous êtes aujourd'hui plus parisien que havrais, mais vous conservez encore de nombreuses attaches avec le Havre.
Oui, j'ai encore de la famille au Havre, mais vous savez, je n'ai pas l'alarme facile, mais je dois dire qu'en 1944, quand je suis rentré au Havre détruit, et le Havre a été détruit après la libération de Paris, à la suite d'une erreur, je crois, car il y a toujours beaucoup d'erreurs dans les guerres, quand j'ai vu cet amoncellement de pierres, j'ai pleuré. D'ailleurs, enfin, je vais vous donner un seul exemple. Non seulement je n'ai pas retrouvé la maison que mes parents habitaient, mais je n'ai pas retrouvé la rue. On a reconstruit maintenant toute autre chose, toute autre ville, et profondément, je crois qu'on a bien fait. On ne peut pas reconstruire une ville qui est complètement détruite. Et le Havre a été détruit à 100%. Enfin, les quartiers du Havre détruits étaient détruits à 100%. J'ai connu Perret. Je dois dire que je suis de ceux qui jugent l'œuvre de Perret absolument exceptionnelle. Je crois que Perret a réaliser une chose extrêmement difficile, qui est de construire d'un seul coup une ville entière, avec sa mairie, son église, et hélas, il n'a pas eu le temps de faire son théâtre.
Est-ce qu'il existe quelqu'un qui pourrait également nous parler de ces transformations?
Eh bien, oui. Je me suis souvent disputé avec lui. C'est mon meilleur ami. C'est ce qui me permet d'ailleurs de me disputer avec lui. Parce que nous disputions de la différence ou des rapports entre la reconstruction havraise et la reconstruction rouennaise. Je dois vous dire que je suis tour à tour rouennais et havrais. Quand je suis pas d'accord avec Rouen, je dis, après tout, ma ville, c'est le Havre. Et quand je suis pas d'accord avec le Havre et d'accord avec Rouen, je dis, mais tout de même, moi, avant tout, je suis rouennais puisque je suis né à Rouen. Eh bien, j'ai un grand, grand ami à Rouen qui est Pierre-René Wolff, qui dirige un des plus grands journaux de Normandie, sinon le plus grand. Et souvent, nous avons bavardé, nous avons parlé du Havre, qu'il connaît d'ailleurs aussi bien que Rouen. Peut-être pourriez-vous l'interroger, je ne sais pas ce qu'il vous dira.
Pierre-René Wolff, vous avez sûrement entendu ce que vient de dire Armand Salacrou.
Oui, oui, ça a dû lui coûter d'avouer qu'il était rouennais. Il ne le fait qu'à la toute dernière extrémité. Et bien qu'il s'en défende, il est resté profondément havré. Il est resté profondément de ce port de mer si particulier au sein d'une terre bien ancrée dans ses labours. Vous savez qu'il y a trois Normandies, en fait. La basse Normandie totalement terrienne, la haute Normandie qui l'est encore profondément, et puis le Havre, qui est un port de mer et un port spéculatif, dans lequel les gens ont pris une habitude non seulement de spéculation dans la fortune, comme Salacrou l'indique dans Boulevard Durand, mais également avec cette sportivité vis-à-vis des coups de chance, comme vis-à-vis les marins, vis-à-vis des coups de mer. Salacrou, lui, a cette dualité. Et il est malin, retors, pratique. Il n'oublie pas du tout comment on met des signatures ou comment on ne les met pas. Mais en même temps, il a cette espèce de manière de génie, du rêve, de la recherche d'un seul coup de l'absolu, et puis, en lui-même, cet appétit de la vie qui n'est au fond qu'une recherche perpétuelle de jeunesse. Et une recherche perpétuelle de jeunesse qui court à travers toute son œuvre comme s'il allait faire demain, et il le fera sans doute, un nouveau Faust. Voilà pourquoi, dans cette dualité de Salacrou, je retrouve tellement cette terre normande, essentiellement rurale, je le disais, essentiellement penchée sur ses champs, mais dans lequel le viking d'autrefois, je dirais le pirate viking, a semé à la fois une âpreté et un rêve.
Les amoureux du Havre n'ont pas besoin de la mer, et les bateaux se navrent d'être toujours seul sur la mer. Je t'aime, tu m'aimes, on s'aimera jusqu'à la fin du monde, puisque la terre est ronde. Mon amour, t'en fais pas, mon amour, t'en fais pas. Les enfants de la terre se fiche du bon Dieu, il s'aime sans s'en faire, comme s'aiment les amoureux. Je t'aime, tu m'aimes, on s'aimera jusqu'à la fin du monde, puisque la terre est ronde. Mon amour, t'en fais pas, mon amour, t'en fais pas. J'irai en Angleterre pour voir les grands bateaux qui font le tour de la terre comme le font les petits oiseaux. Je t'aime, tu m'aimes, on s'aimera jusqu'à la fin du monde, puisque la terre est ronde. Mon amour,
thank you.
avoir une idée sérieuse des Havrais, Denise, je crois que vous êtes servie.
Oui, ça devient même inquiétant.
J'ai l'impression que vous regrettez de plus en plus le vieux quartier Saint-François, non ?
Je le regretterais s'il ressemblait à Montmartre ou au quartier latin, mais Marcel prétend que non.
Oh, je vois ce que c'est. Vous vous demandez s'il y a des artistes au Havre et où ils sont cachés.
Ah, à vous du moins, on ne peut rien vous cacher, Marcel.
Enfin, nous n'allons pas jouer à cache-cache sur cette avenue. Pensez à notre dignité. Je ne sais pas si vous en êtes bien consciente, mais nous foulons actuellement le pavé de l'avenue Foch qu'Auguste Perret a tracé plus large que les Champs-Élysées.
Non, de combien ?
12 centimètres.
Ah, et l'Arc de Triomphe ?
La porte océane nous en tiendra lieu. Vous êtes pour ?
Et pourquoi ? Vous êtes contre ?
Pardonnez-moi de vous interrompre au milieu d'une controverse qui menace de devenir passionnante, mais voyez plutôt cette boutique.
Tiens, une librairie.
Oh, ne faites pas l'étonner. Vous saviez parfaitement que les Havrais ne s'occupent pas seulement des cours de la bourse et qu'ils lisent autre chose que la page financière des journaux.
Allez donc savoir.
Écoutez, il y a un bon moyen d'en avoir le cœur net, c'est d'interroger le libraire.
Monsieur Goblet, en tant que libraire, je pense que vous êtes particulièrement bien placé pour nous dire que Le Havre n'est pas seulement une ville commerciale, une ville marchande.
Avec les contacts que j'ai de façon continue avec différentes couches de la société, des bourgeois comme des petits bourgeois et comme des gens d'un milieu très moyen, je peux vous dire que Le Havre est aussi une ville intellectuelle.
Voyez-vous qu'il y ait un esprit du Havre, une sorte de particularisme havrais, en somme, qui se manifeste dans la vie intellectuelle du Havre?
Oui, je crois qu'en effet, le Havrais est très particulariste. L'un de ses grands hommes, Siegfried, dans un des écrits que malheureusement je n'ai pas retrouvé, dit que l'écolier havrais notamment est particulièrement considéré comme insubordonné et frondeur. Eh bien, cette mentalité persiste à l'âge mûr même. Le Havrais n'aime pas les conventions, n'aime pas les ordres, il a l'esprit frondeur, je n'ai pas d'autre mot.
Est-ce que vous voyez particulièrement dans l'œuvre d'Armand Salacrou quelque chose qui soit typique de cet esprit havrais ?
Ah, mais bien sûr, Armand Salacrou, dans toutes ses pièces justement, je crois, a marqué ce qu'il pensait du bourgeois havrais principalement, du grand bourgeois havrais, et cela n'a pas été quelquefois sans certaines difficultés avec quelques-uns.
Armand Salacrou, vous qui passez volontiers quelques instants dans la librairie de M. Goblet quand vous allez au Havre, vous êtes témoin, vous aussi, que le Havre n'est pas seulement une ville marchande, c'est aussi une ville intellectuelle.
Ben, je crois qu'on aurait pu faire une merveilleuse académie de l'art moderne en ne prenant même que des Havrais. Je vais en oublier beaucoup, mais enfin, Georges Braque est un peintre du Havre, Raoul Dufy aussi, mais ça tout à l'heure je vais vous en parler un petit peu plus. Mais même, il y a... Je sais bien qu'il est suisse comme moi je suis rouennais, mais il est havrais comme je suis havrais. Et il y a Arthur Honegger. Je dois d'ailleurs à cette présence d'artistes comme Othon Friese aussi, qui était un autre grand peintre, mon goût de la peinture. J'étais le fils d'un tout petit bourgeois du Havre, et avant 1914, les petits garçons allaient apprendre des leçons de piano, même lorsque comme moi n'étaient pas très doués. Et pendant 10 ans, j'ai pris des leçons de piano. Et chez mon professeur, il y avait sur les murs des étranges objets qui changeaient régulièrement. Des toiles, des gravures, qui au début m'étonnaient beaucoup. Je ne savais pas trop ce que c'était. Mais comme j'avais beaucoup de respect pour mon professeur de piano, je respectais aussi ce qui était chez lui et même ses peintures-là. Puis quand je suis arrivé à Paris à 17-18 ans, j'ai découvert que, sans le savoir, j'aimais tout de suite ce qu'on appelait la peinture moderne, c'est-à-dire Van Gogh, Cézanne, Gauguin. Et un jour, j'ai vu une toile. Je me suis dit, mais j'ai vu déjà cette toile quand j'étais petit. Cette toile était de Raoul Dufy, car mon professeur s'appelait Léon Dufy, et j'étais chez les frères Dufy sans le savoir. Et quand Raoul Dufy m'a fait l'honneur de brosser les décors de ma pièce Les fiancés du Havre pour la Comédie française, j'ai pu dire à Raoul Dufy, votre frère, hélas, n'a pas pu m'apprendre la musique, mais vous, sans le savoir, vous m'avez appris la peinture. Et je lui ai raconté combien j'avais été surpris. Pendant très longtemps, j'avais 8 ou 9 ans ou 10 ans, par un objet que maintenant je sais être une gravure sur bois. C'était un très grand chat noir, et encadré, et sous le verre, il y avait une dédicace au crayon à ma sœur Henriette, qui m'a recousu un bouton de culotte. ce chat qui était bizarrement dessiné, cette dédicace à laquelle j'étais peu habitué, tout cela me laissait dans un étrange état. Je rêvais des années et un beau jour, quand on a réédité à la Sirène un livre beaucoup trop rare à l'époque pour que j'ai pu en avoir connaissance, qui était le Bestiaire d'Apollinaire, en tournant les pages de la réédition de la Sirène, le chat m'a sauté, si j'ose dire, à la figure. C'était le chat de Duffy, c'était le chat que j'avais vu quand j'étais petit garçon. Dont il avait offert la première épreuve originale à sa sœur, qui lui avait recousu un bouton de culotte.
Qu'est-ce qui se passe, Denise? Vous avez l'air bien rêveuse.
C'est la vue de la mer qui vous fait cet effet-là?
Oh, vous savez, la mer, c'est beau, mais c'est plat. Et après toutes ces rues neuves, ces constructions alignées au cordeau, ah, j'aurais aimé un peu de fantaisie.
Encore? Oh, mais finalement, vous n'êtes pas du tout pour les choses sérieuses. Vous nous avez menés en bateau.
Ah, ce serait plutôt vous, non? Voyez-vous, ce que j'aimerais qu'on m'offre maintenant, c'est un coin de campagne. Des pommiers dans les clos, du chaume sur les toits.
Et des vaches sur l'herbe tendre.
Parfaitement. Les vaches ont un poil magnifique à cette saison. Luisant, frisé, soyeux, on dirait qu'elles sont en velours.
Une vision très couvercle de boîte à camembert.
Mais rien n'est plus émouvant qu'un couvercle de boîte à camembert, Marcel. C'est toute la Normandie.
Ah, taisez-vous, vous commencez à m'émouvoir pour de bon à cette heure-ci un camembert avec une bouteille de cidre bouché.
Aucun doute, José. C'est sûrement vous le plus normand de nous trois.
Oui, oui. Ou non, est-ce que vous m'emmenez faire un tour à la campagne?
Écoutez, je vais vous faire une confidence. Armand Salacrou m'a indiqué un pays ravissant au bord de la Seine où il a habité pendant 15 ans. Il a encore de bons amis là-bas. Voulez-vous que nous allions leur rendre visite?
Volontiers.
Oui, comment s'appelle ce pays?
Sur la Seine, c'est Vieux-Port et sur le plateau, c'est Trouville-la-Haule. Voyons, Denise, vous ne vous souvenez pas, là, tout à l'heure, nous étions sur le bateau et...
Ah oui, 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 une prairie qui descend doucement vers la Seine, avec deux petites maisons blanches à toit de chaume.
C'est Courval. Et vous aviez bien deviné, pendant 15 ans, il y a eu un écrivain qui travaillait là-haut, derrière les fenêtres, à petits carreaux, avec la Seine sous les yeux et la vallée à perte de vue. Armand Salacrou, est-il indiscret de vous demander lesquelles de vos pièces vous avez écrites à Courval?
La première, enfin, que j'ai terminée à Courval, c'était en 35, quand je me suis installé à Courval, c'était L'inconnu d'Arras. Et pour toutes les autres pièces, jusqu'à la guerre, c'est-à-dire Un homme comme les autres et La Terre est ronde. Histoire de rire, non. Histoire de rire, je l'ai écrit d'hôtel en hôtel, car j'écris aussi beaucoup à l'hôtel, et là, c'était à travers la France. Et puis, alors, je suis retourné à Courval après la guerre, et je crois que j'ai écrit là une grande, grande partie de L'archipel de Noir. Et je me souviens d'une pièce que j'ai écrite en effet là aussi, après la guerre, c'était L'ennemi de la colère, et j'étais venu seul avec ma fille cadette à Courval. Alors je travaillais toute la journée, puis vers 4h30, j'allais à l'école justement de Trouville là-haut, après mon travail, chercher ma fille, je la ramenais et je me remettais encore au nuit de la colère.
Mais pourquoi aviez-vous choisi cette région, enfin, plutôt qu'une autre?
Eh bien, d'abord parce que c'est la Seine relie, si vous voulez, les deux, mes deux pôles de dont nous parlons depuis le début de cette émission, c'est-à-dire Rouen et Le Havre. Et que j'avais, étant plus jeune, beaucoup plus jeune, en 25, quand j'avais 25 ans, et je n'avais pas d'argent à l'époque, j'avais trouvé une maison de cantonnier, mais chez le cantonnier, j'habitais chez le cantonnier qui avait bien voulu me prendre en pension, si j'ose dire. D'ailleurs, ça avait été un peu compliqué. D'abord, il avait dit non parce qu'ils avaient peur de ce que diraient les gens du pays. Puis tout d'un coup, ils m'ont recouru après parce que je crois que je payais 10 ou 15 francs par jour et ils tenaient ces 10 ou 15 francs. Et alors, la brave dame qui doit être morte maintenant, c'était en 1925, est venu et m'a dit, écoutez donc, si monsieur permettait que je dise que je suis sa nourrice, que j'étais sa nourrice autrefois, alors je veux bien. Ben, j'ai pas assez entendu, ma nourrice. Et c'est comme ça que je suis rentré, c'était à Yville, un merveilleux pays aussi, sur les bords de la Seine, où j'ai écrit une de mes premières pièces qui s'appelle Le Pont de l'Europe. Et j'avais été enchanté par ce mélange de bateaux, de pommiers en fleurs, ces sirènes de bateaux en même temps que les oiseaux chantent. Enfin, c'est un endroit tout à fait extraordinaire. Si on est quelquefois un petit peu en dessus, on voit des transatlantiques passer dans les arbres. C'est un endroit de déluge, enfin. Et quelques années plus tard, j'étais très lié à ce moment-là avec Michel Saint-Denis. Nous n'avions pas beaucoup d'argent, ni lui ni moi, et on avait demandé à ma femme de nous trouver un endroit où il y aurait la forêt, l'eau, et puis je ne sais plus quoi encore. Alors elle a pris une carte Michelin, elle avait cherché tous les endroits où on trouvait à la fois des forêts et de l'eau, et en effet, elle a trouvé la forêt de Bretonne et la Seine. On a loué une petite maison là, et on allait acheter nos prunes chez une vieille bonne femme qui avait une maison au diable, perdue dans les bois. Et quelques mois plus tard, elle m'a dit, voilà, je vais vendre ma maison aux enchères. Vous la trouviez jolie, l'endroit bien, et peut-être que ça vous intéresse. Nous sommes allés à la vente, nous l'avons achetée, et c'est ainsi que Courval est né.
Mais votre arrivée dans un petit pays, enfin des bords de la Seine, à l'époque où les Parisiens se déplaçaient enfin moins facilement qu'aujourd'hui, oui, ça a dû causer une certaine émotion, non?
Ah, ben ils m'ont trouvé tous un peu louftingue. Parce que, n'est-ce pas, d'abord, j'ai pris naturellement la vieille chaumière qui datait du XVIIe siècle, je l'ai prise comme maison pour moi. Et puis alors, il y avait une étable, et alors, pour que mes amis puissent manger, j'ai transformé l'étable en salle à manger. Mais en même temps, je voulais un gardien et une sorte de garage, puisque à ce moment-là, j'avais de l'argent et des voitures. Alors, j'ai fait construire un garage, en le cachant autant qu'on pouvait le cacher, avec une petite maison en dessus pour les gardiens. Et les gens du pays disaient, ça la coûte complètement idiot, il fait construire une maison neuve, il la donne à ses employés, et lui, il va coucher dans l'étable. Voilà la première réaction des gens du pays. Mais il y en a eu d'autres, parce que j'ai vécu vraiment pendant des années, enfin, nous habitions là pendant 6 mois par an, enfin, on n'en sortait pas, n'est-ce pas, j'étais vivant enfermé. D'ailleurs, c'est simple, quand la guerre a éclaté, je faisais construire un four à pain, je louais des vaches, enfin, nous faisions notre lait, notre beurre, enfin,
autonomie intégrale.
Tout à fait l'autarcie. Mais la guerre est arrivée, c'est bien que je n'ai pas eu de four à pain. Mais je connaissais les gens du pays, hein, qui n'a disparu maintenant, qui était à Vieux-Port et avec qui j'allais jouer à la belote. Et puis aussi les instituteurs où mes enfants, qui devaient tout de même aller à l'école, allaient à l'école. C'était un excellent instituteur et c'est là où mes filles ont passé leur certificat d'études.
Nous sommes ici chez monsieur et madame Meynier, qui sont les anciens instituteurs de Trouville-la-Houle. Nous nous trouvons dans une ravissante maison couverte en chaume, sur la falaise, au-dessus de la Seine. Et nous avons Le Havre à 50 km et Rouen à 50 km. Nous sommes donc en plein cœur de la Normandie, on peut dire. Madame, je crois que vous n'êtes pas de Trouville-la-Houle.
Non, monsieur, je suis originaire du Midi, mais ma situation d'institutrice m'a conduite à Pont-Audemer, où j'ai rencontré mon mari, et de là, nous sommes montés à Trouville-la-Houle en 1927, où nous venons de prendre notre retraite il y a 3 mois.
À quelle distance de Trouville se trouve la maison d'Armand-Salacrou?
Elle est à environ 1,5 km d'ici.
Comment avez-vous connu Armand-Salacrou, madame?
En 1936, nous avons vu arriver au village un jeune ménage qui cherchait un endroit. Nous ne savions si c'était pour se reposer ou pour y travailler. Mais en tant qu'instituteur, nous étions aussi secrétaire de mairie. On s'est donc adressé à nous pour avoir et l'adresse de la propriété et l'emplacement exact. Nous sommes allés dans la petite mairie où nous avons ouvert le cadastre.
Pourquoi Armand Salacrou s'installait-il à Trouville-la-Houle?
Nous pensons qu'Armand Salacrou a cherché à s'installer à Trouville-la-Houle, d'abord parce que c'est un coin très joli, parce qu'il a toujours été, je crois, attiré par ce bocage normand et par ces masures de chaume. Car la propriété qu'il a achetée, ça n'était pas en réalité une belle propriété. C'était une petite ferme presque désaffectée parce qu'elle était dans un fond, mais elle se trouvait en bordure de notre grand fleuve. Et du jour au lendemain, Armand Salacrou a su transformer ce coin perdu en bien joli jardin.
Madame, comme institutrice de l'école, vous avez eu les enfants d'Armand Salacrou à l'école de Trouville.
C'est mon mari qui a préparé la grande à l'examen d'entrée en sixième, où elle a passé un examen brillant au lycée du Havre.
Et sur les enfants du pays, sur les enfants de Trouville même?
Pour les enfants, ils ont été très généreux, puisque le premier appareil cinématographique parlant, qui est arrivé à l'école et qui a servi dans tout le village, la première obole a été versée par Armand Salacrou, le jour où sa fille a été reçue à l'examen d'entrée en sixième.
Est-ce que c'est Armand Salacrou qui vous a donné l'idée d'emmener les enfants en voyage comme vous l'avez fait si longtemps?
On ne peut pas dire que c'est lui qui nous a donné cette idée, mais nous pouvons dire tout de même qu'il nous a beaucoup aidés. Nous sommes allés à Paris presque tous les ans avec nos enfants, car il n'y a pas de raison que les enfants de Trouville-la-Haule ne connaissent ni Versailles, ni la Tour Eiffel, car lorsqu'ils vont à Paris, quand ils n'ont pas vu la Tour Eiffel, ils n'ont rien vu. Il n'y a pas de raison, nous les avons même emmenés en Hollande, même à Londres l'année du couronnement et au Baléares quelques années après. Les voyages forment la jeunesse et par conséquent ça les a formés eux, mais il n'est pas rare, lorsque des tout petits arrivent dans nos classes, qu'on leur demande s'ils ont vu la Seine, ils n'ont même pas vu la Seine.
Et la Seine est à...
Et la Seine traverse notre village, est à peu près 600 mètres de l'école.
Maintenant, nous ne voudrions pas vous quitter sans avoir entendu la voix de Monsieur Meunier, qui est un vieil ami d'Armand Salacrou et qu'Armand Salacrou sera sûrement ravi d'entendre.
Écoutez, monsieur, je peux vous dire que si cela vous étonne que nos enfants n'ont pas vu la Seine, lorsqu'on va en Amérique, il vous arrive aussi des drôles de choses. Et Monsieur Meunier va vous lire une carte qu'Armand Salacrou a bien voulu lui envoyer lors de son récent voyage en Amérique.
Oui. Mes chers amis, j'habite au bas de cet immeuble, au 23e étage. New York est... comme ils disent, très attractif. Mais qu'il m'aurait dit en plein Broadway qu'un passant m'aurait arrêté pour me demander des nouvelles de monsieur et madame Meunier et de Trouville. C'est pourtant vrai. Il s'agit de monsieur Henri Blanchenet. Je pourrais rester ici 3 ans et demi, mais je repars dans 3 semaines. Bien amicalement, Armand Salacrou.
Et Denise? Ah, oh, j'espère que ce n'est pas la musique de Neuger qui vous fait cet effet-là. Pacifique 231, ce serait un comble.
Non, ce n'est pas ça. C'est sans doute l'effet du grand air. Je ne suis pas habituée, vous comprenez. Et le train me donne toujours envie de dormir, surtout le train du retour.
Regardez José, lui. Il n'y a pas de danger qu'il s'endorme. Qu'est-ce qu'il est en train de lire?
Boulevard Durand. Un roman?
Mais non, la dernière pièce d'Armand Salacrou. Elle est parue il y a 8 jours.
La dernière pièce de Salacrou?
Tiens.
Mais dites donc, c'est un événement. Quel genre? Histoire de rire?
Histoire vécue, plutôt.
Ah, et ça se passe où?
Au Havre, justement.
Et le sujet?
Ah, le sujet, c'est une véritable tragédie. Mais un Havrais vous la raconterait mieux que moi. Tenez, il en est question dans ce journal du Havre, là, regardez. L'auteur de l'article s'appelle Noël Lecrec.
Oui.
Voulez-vous qu'il nous la raconte lui-même, l'histoire?
L'histoire Durand est celle d'un homme, d'un ouvrier, d'un militant syndicaliste qui s'est trouvé embarqué dans ce qu'on appellerait une mauvaise histoire, n'est-ce pas? Je peux vous la raconter en 30 secondes. C'était en 1910, la grève des charbonniers. Durand était leader syndicaliste et pendant cette grève, un homme a été tué. Tout le monde sait maintenant que Durand n'y était absolument pour rien. Je m'excuse de ce que je dis, le patronat a trouvé qu'on pouvait museler Durand, n'est-ce pas, qui était le leader de la grève, pour quelques semaines ou quelques mois, le temps que la grève disparaisse, et on a accusé Durand d'être le responsable moral, n'est-ce pas, de ce meurtre. Durand a été jugé, et contre l'attente absolument générale, contre même l'attente de ses accusateurs, Durand a été condamné à mort. Naturellement, toutes les voix qui, dans le monde, aiment la liberté, Jaurès notamment, Anatole France aussi, se sont unies. C'est une sorte de clameur, une clameur véritablement mondiale, n'est-ce pas, a fait qu'on a obtenu que la peine de mort soit devenue une peine de prison. Or, Durand a été emprisonné donc seulement à la fin de la guerre de 14-18. On a fait une révision du procès et Durand était gracié. Seulement, le véritable drame, le fond du drame, c'est que Durand était devenu fou entre-temps et qu'il est mort longtemps après. Il est mort en 1926, n'est-ce pas, à Rouen, à l'île de Quatre-Mars à Rouen, sans avoir recouvré sa raison. Alors, c'est ça le sens profond du drame, n'est-ce pas? Un homme accusé injustement d'abord, gracié ensuite, mais lorsqu'il est gracié, incapable de bénéficier de cette grâce parce qu'il est fou. Le rôle de Salacrou dans cette affaire, c'est que lorsque Durand a été incarcéré à la prison du Havre, Salacrou habitait à quelques mètres de cette prison. Il avait 10 ans en 1910, Armand Salacrou. Et il voyait les parents de Durand, braves gens éplorés, n'est-ce pas, de cette histoire, se rendre à la prison. Cette pièce, Boulevard Durand, est une pièce sur la bonté. Et c'est profondément vrai, car nous avons peut-être pas assez dit tout à l'heure que Jules Durand était un homme excessivement bon, un naïf, en somme. Il a été la victime, n'est-ce pas, de cette affaire, alors que ses camarades, au fond, qui étaient aussi responsables que lui de la mort, ils n'étaient ni l'un ni l'autre, d'ailleurs, de la mort de cet homme, de l'homme qui a été tué, ses camarades, lors du jugement, ont tranquillement déclaré qu'ils étaient partis pêcher des moules, n'est-ce pas, ce jour-là. Durand, lui, a revendiqué l'honneur d'avoir été le leader du syndicat et ne s'est jamais dérobé, n'est-ce pas, devant ses responsabilités morales. Or, cet engagement moral, on le trouve dans toute l'œuvre de Salacrou, je crois, enfin, dans toutes les pièces de Salacrou.
J'avais 10 ans quand l'affaire a éclaté. Mon père était à ce moment-là déjà conseiller municipal. Il était élu conseiller municipal en 1908. Il a été constamment réélu jusqu'en 40, enfin jusqu'à la guerre. Et les amis de mon père et mon père lui-même étaient convaincus non seulement de l'innocence de Durand, mais de la machination dans laquelle le malheureux Durand est tombé. Son innocence a été reconnue officiellement par la Cour de cassation en 1918. Donc ce n'est pas, je ne plaide pas une cause perdue. Je raconte un crime, le crime d'une société qui, croyant nécessaire pour se sauvegarder de mentir, a vu ses mensonges la conduire à l'assassinat.
Est-ce que l'affaire, enfin le boulevard Durand, qui est tiré de l'affaire Durand, ne dépasse pas un peu simplement le cadre judiciaire?
Oui, bien sûr. Si vous voulez, pour prendre des grands mots, c'est l'éternelle histoire du juste devant ses bourreaux. C'est l'éternelle histoire de l'homme qui est amené à se dévouer pour qu'un progrès s'accomplisse. C'est l'homme qui pense plus aux autres qu'à lui-même. D'ailleurs, dans sa folie, le malheureux Durand s'était identifié à la fin à Jésus-Christ.
Eh bien, au revoir Denise, au revoir Marcel, à la prochaine.
Merci pour cette fois en tout cas, c'était très intéressant.
Oh, vous savez...
Si, mon vieux, vraiment. Je ne sais pas ce qu'en pense Denise.
Moi, eh bien, j'ai quand même un vague regret.
Ah, quelque chose vous a déplu?
Non, pas précisément. Mais je trouve dommage qu'on soit allé au Havre et qu'on n'ait même pas rencontré un vrai marin.
Ah, peut-être, mais au Havre, nous avons rencontré plus original qu'un vrai marin.
Ah, quoi donc?
Ben, un montagnard. Un Normand aussi montagnard qu'un Savoyard et qui n'est pourtant même pas né en Suisse normande.
Mais de qui voulez-vous parler?
D'Armand Salacrou, ma chère. Armand Salacrou, Normand et Havrais, n'a jamais eu le pied marin. Mais par contre, c'est un excellent montagnard. Ça, expliquez ça comme vous voudrez.
Je peux me permettre de vous proposer une explication.
Mais voyons.
Eh bien, les Vikings, en dehors de leur réputation horrifique et polytechnique, est-ce qu'ils ne sont pas connus aussi pour leur esprit de contradiction?
Je viens apporter des nouvelles qui sont aussi bonnes que belles, mais je suis sujet à mentir. J'ai vu un limaçon en guerre qui jetait un lion par terre
dessous lui l'assujettir, qui vient de loin sans flatterie, il n'épargne la menterie. J'ai vu l'Angleterre en Espagne, et l'Italie en Allemagne, et les Alpes de beurre frais. J'ai vu deux bœufs et leur charrue, dedans le ventre d'une grue, vendre du charbon de rabais, qui vient de loin sans flatterie, il n'épargne la menterie. Telle s'enivre bien son vin boire, et telle autre nous fait accroire, choses qui ne furent jamais. La vérité est déchassée, et la menterie avancée, parmi le monde désormais, qui vient de loin sans flatterie, il n'épargne la menterie.
La province et mon cœur. Une émission de Claude Dupont. Texte et reportage de Jean Châtenay, présenté par José Arthur, Denise Benoît, Marcel André, avec François Robert au piano. Assistante de production, Catherine Claes. Chef opérateur du son, René Cambien. Aujourd'hui, Armand Salacrou vous a présenté Le Havre, avec la participation de Pierre-René Wolf, Bernard Esdras-Goss et de Robert Chandeau.
Cette émission a été diffusée la première fois, le 10 septembre 1960, sur la chaîne parisienne. Vous pouvez la télécharger et la réécouter à la page des nuits sur le site franceculture.fr.
C'est à l'heure du matin, oxygène, quand les pas sont encore trop sonores, les odeurs du café qui te prennent, le Havre. Sur le port, c'est à l'heure du train de marchandises, quand la nuit se révèle en couleur, il restera quelques fumées grises, le Havre sur le port. Elle se lève ici, les jolies brumes, on a froid, mais le froid s'évapore. Ça fait des soleils de fortune, le Havre sur le port. C'est à l'heure des cargos immobiles, quand les grues sont de grands dinosaures. Avant que les néons s'illuminent, le Havre sur le port. C'est à l'heure du boulot coûte que coûte, qu'on s'entraîne à rire un peu trop fort. Il faut du cœur pour gagner sa croûte, le Havre sur le port. Elle se lève ici, les jolies brumes, on a froid. Mais le froid s'évapore, ça fait des soleils de fortune, le Havre sur le port. C'est à l'heure des sirènes. Que là tu sommeilles encore, je repense à nos baisers nocturnes, le Havre sur le port.